Hier, nous étions à la fête et c'était chouette de pouvoir fêter ensemble. Mais j'étais à table à côté d'un couple qui avait perdu leur enfant de 7 ans il y a 2 mois. Et pour eux, c'était difficile de fêter. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez entendu qu'on a retrouvé un camion au bord de la route en Autriche avec 70 corps enfermés dans le camion, des gens qui voulaient échapper à la guerre et à l'oppression dans leur pays et puis qui ont été transportés par des gens malveillants. Et ils les ont laissés enfermés dans le camion pour s'en débarrasser, probablement. On ne sait pas ce qui s'est passé. Je me souviens en 2004, je regardais la télé, comme vous probablement, et on a vu ces images du tsunami. Et j'ai retrouvé un papier où j'avais écrit comment je me suis senti en regardant ces images. Juste après, j'ai écrit tout cela. J'étais bouleversé, 230 000 morts. Et puis il y avait des pensées contradictoires et une espèce de fatalité que je trouvais dangereuse qui était venue me gagner. J'ai écrit ça dans quelques-unes de mes réflexions. J'ai mis: c'est horrible, c'est pas juste, c'est toujours les mêmes qui souffrent. Pourquoi, Seigneur, tu permets ces choses? Puis après, je me disais: merci, Seigneur, de ne pas avoir cette catastrophe qui me prive de ma propre famille, comme c'était le cas pour quelques familles françaises. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce que je dois y aller? Parce qu'il y avait des médecins qui se préparaient à partir. Qu'est-ce que je fais ici devant ma télévision à regarder la souffrance des autres, alors qu'en ce moment, je pourrais peut-être apporter un peu de soulagement? Et puis après, de toute manière, c'est toujours la même chose, et on ne peut rien y faire. Et puis, toute cette générosité, merci Seigneur, et puis, et moi, est-ce que je participe à cela, à cette générosité? Puis je me disais, cet argent probablement n'arrivera pas aux plus pauvres, aux plus touchés par la catastrophe. Puis je me disais, l'humanitaire, c'est aussi un business. Et puis, 230 000 morts, c'est énorme. Mais c'est moins que le nombre de morts qui est arrivé au Darfour et au Sud-Soudan l'année d'avant, et les 300 000 morts du cataclysme aussi l'année précédente au Bangladesh, dont on a très peu entendu parler. Et c'est moins que les 3 millions de morts chaque année dues au paludisme qui sévit dans les pays les plus pauvres et pour lequel on aurait déjà trouvé un vaccin si ça touchait encore les pays occidentaux. Et toute cette misère qu'on côtoie tous les jours à nos carrefours et puis sur nos trottoirs. Saviez-vous que 90% de l'aide qui est apportée aux gens qui sont dans la détresse, dans ces cataclysmes, viennent des voisins? Si on mettait ça financièrement, 90% de l'aide viennent des voisins. C'est important de réagir. On a appris aussi que dans les suites du tsunami, il y avait eu un trafic d'enfants pour les marchés d'esclaves, pour la prostitution et probablement un trafic d'organes, chose terrible. Et on pense aussi à ces enfants qu'on s'est dit, ben voilà, on va les adopter. Et puis, il y a certaines associations qui s'y sont mises sans chercher les parents et au profit de couples stériles, eux en souffrance aussi et prêts à tout pour partager leur amour, même à fermer les yeux sur des pratiques criminelles. Et lorsque je regarde les actualités aujourd'hui, ben, ça ne change pas. Et on regarde le monde et on se dit, les riches prospèrent et les pauvres s'appauvrissent. Ce sont les méchants qui triomphent encore. Et le roi David se faisait cette même réflexion dans les psaumes, et notamment le psaume 94, il disait, jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Il faut, pour arriver ici-bas, et j'emploie, et j'ai déjà dit, les mots du monde, être un peu requin dans cette existence. Il n'y a pas de place pour les tendres et les compatissants. J'en sens au sens du monde. Pourtant, Jésus nous invite à adopter un tout autre regard, une autre posture face aux événements qui nous entourent. Il nous dit en Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34, et je vais vous le lire, mais vous connaissez le verset 33 par cœur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais juste avant, il va parler de ces choses matérielles. Donc nous avons besoin. Mais au verset 24, il dit: Nul ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Juste une remarque. C'est vrai qu'il faut que les petits oiseaux du ciel cherchent leur nourriture. Mais c'est Dieu qui la leur donne. Mais ils doivent la chercher. Il faut mettre les choses en ordre. Dieu bénira notre travail si nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors on se demande parfois, où est-ce qu'il faut chercher quand on regarde ce monde? Et même dans l'Église, nous voyons de l'injustice. L'Église, elle a tendance à se conformer à la justice de son époque. Alors vous dites, non, quand même. Mais si, si. Ce qui nous semble juste aujourd'hui n'est pas toujours la vérité. La justice de ce monde, elle est culturelle. Et c'est cette notion qui est à l'origine de nombreux conflits. Et ce qui semble juste pour l'un est injuste pour le voisin. Et c'est ce qui oppose parfois les démocraties à certaines dictatures. La résolution de conflits à Madagascar, c'est dans une entreprise, le patron vole de l'argent. Et puis le comptable est là, ou la secrétaire, et puis on s'aperçoit que l'argent a été volé, on sait tous que c'est le patron qui a volé l'argent, mais on vire la secrétaire ou le comptable. Parce que, et c'est normal, parce qu'il ne faut pas perdre la face. C'est une forme de justice. Bon, pour nous, ça nous semble complètement injuste. Mais voilà, c'est une manière de résoudre le conflit. Et on dit qu'il y a ce qu'on appelle une dialectique de la justice du monde. Une vérité, elle ne l'est pas. Elle n'est pas la même partout, et a fortiori pas à la même à toutes les époques. Alors vous dites là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce qui était juste hier ne l'est plus aujourd'hui. L'esclavage, par exemple. Vous trouverez très peu de choses dans l'Écriture concernant l'interdiction de l'esclavage. On en a déjà parlé. Il n'y a pas d'interdiction de l'esclavage dans l'Écriture. Pourtant, aujourd'hui, on sait que c'est terrible, l'esclavage. Et c'est puni par la loi, heureusement. Mais dans l'Écriture, on voit des lois qui protègent les esclaves. C'était une avancée. Et certaines choses qui étaient injustes hier sont justifiées aujourd'hui. L'homosexualité. Certaines églises ont d'ailleurs décidé de bénir les couples homosexuels et leur donner un statut de marié, l'église réformée en France. Où est-ce qu'on va trouver la justice? Où est-elle? Mais là n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ dans ce passage. La règle d'or pour comprendre les choses spirituelles, elle n'est pas intellectuelle. On ne le comprend pas avec sa tête. Elle est pratique. Et la première chose, c'est l'obéissance. Un vilain mot aujourd'hui encore, l'obéissance. Le discernement dans le monde spirituel ne s'obtient jamais par l'intellect, mais par l'obéissance. Si quelqu'un veut acquérir des connaissances scientifiques, alors la curiosité intellectuelle est le moyen qui est mis à sa disposition. Mais si quelqu'un veut comprendre des vérités, des enseignements du Christ, eh bien il lui faut obéir. Et à la fin du sermon sur la montagne, qui semble inaccessible à l'humanité, il y a quelques petites paraboles de Jésus concernant ceux qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique. Il faut s'y mettre. En d'autres termes, si des choses nous semblent incompréhensibles spirituellement, ben cela vient souvent d'un aspect de notre existence où nous n'avons pas obéi. Au verset 40, 24, Jésus commence le passage par les préoccupations du monde, par l'obéissance. C'est qui ton Dieu? C'est Mammon ou Dieu? Et il existe un ancien dicton qui vient d'Origène et de Clément d'Alexandrie, ils l'ont utilisé tous les deux, et que Jésus aurait pu prononcer. Il dit: demandez de grandes choses et vous en recevrez de petites. Demandez des choses célestes et vous en recevrez des terrestres. Cela veut dire que les choses spirituelles se transforment en choses matérielles. Elles transforment l'humanité. L'homme a été créé pour Dieu. Et quel est donc le but ultime de l'existence humaine? C'est glorifier Dieu et se réjouir de sa présence pour toujours. C'est ce qui faisait que David avait un cœur pour Dieu, qu'il est écrit. Et je peux vous dire que cette perspective ne réjouit que ceux qui sont en Dieu. Si vous dites à quelqu'un: oh, tu verras, le paradis, c'est louer Dieu tout le temps, être en sa présence. La plupart des gens vont vous dire: purée, c'est long l'éternité, comme dirait Coluche. C'est long l'éternité. Il y a un mal qui réduit la justice, et je parle de la justice du royaume des cieux, au néant. Ça s'appelle la paresse. Et la paresse nous rend participants à l'injustice. Car ce que Dieu avait prévu d'utiliser pour pratiquer sa justice dans le royaume se trouve toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas l'accomplir. Et cette paresse, elle se nourrit du désespoir. Et ce désespoir, eh ben, il se nourrit de la paresse. Et c'est un cercle vicieux. Et vous savez, on dit le royaume, il est ici, il est vraiment ici, c'est une réalité, mais on dit qu'il n'est pas encore. C'est le pas encore du caractère du pèlerinage de notre existence sur Terre. Il est ici le royaume, mais aussi pas encore complètement accompli. Et on le sait dans nos existences. Mais avec la paresse, eh bien, il ne devient pas du tout. Il y a une épitaphe que j'aime à rappeler. J'aimerais pas qu'elle soit sur ma tombe, bien sûr. C'est la paresse nous l'a ravi avant la mort, signé ses amis. Et c'est un désespoir, d'après Augustin et Thomas d'Aquin, qui trouve ses racines dans ce qu'ils appellent l'indolence, la paresse. Et son contraire, le contraire de la paresse, c'est pas le zèle, mais l'absence d'estime de soi. Nous ne savons pas qui nous sommes vraiment. C'est une espèce de tristesse qui correspond à un manque d'estime de soi. Et Paul l'appelle la tristesse du monde, de Corinthiens chapitre 7, verset 10. Et il dit, cette tristesse produit la mort. C'est encore l'absence de courage des grandes choses qui devraient être associées à la vie des chrétiens. L'individu pris au piège par son indolence n'a ni le courage, ni la volonté d'être aussi grand qu'il l'est réellement. Nous sommes fils et filles du Dieu très haut, nous rappelle l'Écriture. L'indolence, c'est la signature de toute époque qui cherche dans son désespoir à se défaire des obligations liées à la noblesse, ce que le christianisme confère à l'homme, et donc cela revient à nier sa vraie nature. Et ça, c'est Augustin qui écrivait ça. Alors, en tant que chrétien, on peut exercer cette justice que l'on trouve en Dieu. Alors, c'était le roi Lion. Et je regardais le roi Lion, et je regardais le 1, et je regardais l'autorité de Mombasa, le père de Simba. Cette autorité, il pouvait exercer la justice sur son royaume par sa force, qu'il mettait au service de la justice. Et quand on regarde Simba, le début de Simba, lui, il ne cherche qu'à éviter le conflit. Il fuit le conflit. Simba a peur d'affronter sa réalité avec les erreurs du passé. Il est écrasé par sa culpabilité. La justice, sans la force, elle est impuissante. Et la force, sans la justice, elle est tyrannique. Et ça, c'est Blaise Pascal qui écrivait ça et dit « La justice sans la force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut mettre ensemble la justice et la force, et pour faire cela, que ce qui est fort, juste, soit fort, et ce qui est fort, soit juste. » Vous savez, le modèle au Moyen-Âge de la justice, c'était la chevalerie. Un chevalier était pieux, vertueux, et il avait pour principale activité de protéger la veuve, l'orphelin, d'assurer la justice pour les plus humbles, de garantir le droit par la puissance de son armure. Mais les chevaliers, ils ont asservi ceux qu'ils devaient servir pour diverses raisons, et ils ont oublié qu'ils étaient d'abord serviteurs. Comment rechercher la justice ? Comment ? Jésus nous dit en devenant humble. Hébreux 11 nous dit que nous sommes héritiers de la justice qui s'obtient par la foi. Et Jacques 3, 18, que le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Alors comment Dieu accomplit-il sa justice ? Eh bien, c'est un juste qui meurt pour les injustes, tué par les injustes. La puissance de Christ, elle est placée en humilité. Dans l'humilité de la croix. Paul nous dit, c'est une puissance pour quiconque croit. Et le prophète Sophonie le disait déjà, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles de la terre, qui exécutez son ordre. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. C'est comme ça qu'on cherche la justice dans le royaume des dieux. Il y a le pape François qui est un pragmatique et qui invite dans un livre tous les chrétiens à remettre Jésus au centre de leur vie. Pourquoi mettre Jésus au centre de sa vie. Ben, on dit oui, je dois mettre Jésus au centre de ma vie, mais de manière pragmatique, à quoi ça sert de mettre Jésus au centre de sa vie? Ben, à ne pas pécher, oui certes, mais parce qu'alors, ce n'est plus moi qui suis au centre de ma vie. Et quand ce n'est plus moi qui suis au centre de ma vie, eh ben, je suis disponible pour les autres. C'est ça le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir du royaume, c'est d'être au service des autres. Mettre Jésus au centre de sa vie, c'est pas le mettre au premier, en premier. D'abord, il y a Jésus, puis ensuite il y a ma famille, puis ensuite il y a mon travail, puis ensuite il y a mes amis. Non, mettre Jésus au centre de ça, on est dans l'erreur. Parce qu'au bout du compte, quand on pense comme ça, où est-ce que je suis moi? Ben moi, je suis au-dessus de Jésus. Parce que Jésus est à mon service, ma famille est à mon service, mon travail est à mon service et mes amis sont à mon service. Non, mettre Jésus au centre de sa vie, c'est le mettre au centre de nos familles, de le mettre au centre de nos relations d'amitié, de notre travail et de nos loisirs. Je terminerai avec 1 Pierre. 1 Pierre 3:8. Béni soit Dieu, c'est une prière, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et même pensons, au moyen de la puissance de l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours, dit Paul aux Éphésiens. Amen.